BW. Vue d'Allemagne.
C'est encore les vacances d'automne dans plusieurs états et régions en Allemagne, mais alors que ce sera la reprise dans quelques jours, on reparle d'un débat qui continue de préoccuper tout le monde. Comment gérer les téléphones portables dans les écoles allemandes? Juste après cela, on est en Pologne, alors que face au manque de moyens financiers, de nombreuses familles font recours à des cagnottes médicales pour faire face à des soins de santé. Au micro, Relu Koubakin, Willkommen, bienvenue. L'Allemagne doit-elle interdire les téléphones portables dans les écoles? C'est le titre d'un papier datant de juillet dernier de la radio publique allemande, la Deutschlandfunk, qui indiquait que des pays voisins de l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, mais aussi l'Italie et l'Australie, avaient déjà répondu oui à cette question. Dans le lycée de Clarabtach aussi, c'est oui, cette déléguée des élèves du lycée Dalton à Alsdorf dans l'état-région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans l'ouest de l'Allemagne, a compris qu'elle n'avait plus besoin de son téléphone en classe. Depuis fin avril, l'utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans l'établissement pour toutes les classes.
Je ne peux plus consulter mon téléphone portable pendant les cours ni envoyer rapidement un message pendant la pause. Au début, beaucoup d'élèves ont demandé pourquoi cette mesure avait été prise, mais avec le temps, beaucoup ont réalisé que ce n'était pas si grave et que cela présentait également de nombreux avantages. La plupart des enseignants trouvent cela très bien. Les élèves plus jeunes l'acceptent, les plus âgés ne sont pas satisfaits.
Le lycée Dalton fait partie des nombreuses écoles en Allemagne qui ne veulent plus rester les bras croisés face à l'utilisation massive de téléphones portables par leurs élèves. Après les vacances de Pâques, le concept Smart Home Phone, intelligent mais sans téléphone, a été introduit à titre d'essai. Comment ça marche? Eh bien, les téléphones portables doivent désormais être rangés dans les cartables du début à la fin des cours. Si un élève est surpris avec son smartphone, ses parents ne pourront le récupérer qu'au secrétariat le lendemain.
Au total, 51 téléphones portables ont été confisqués, ce qui est un résultat honorable pour 700 élèves. Et maintenant, on voit surtout les jeunes enfants qui auparavant se tenaient en cercle et regardaient tous leurs téléphones portables jouer ensemble au football, au badminton ou à des jeux de société. C'est un changement radical.
En Allemagne, le fédéralisme a aussi son mot à dire. Vous savez certainement que les vacances scolaires ne sont pas fixées à la même date. Chaque état-région a son calendrier scolaire. Rien à voir avec le sujet du jour, mais c'est à peu près pareil. Dans l'état-région du Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le plus peuplé d'Allemagne, il n'y a pas d'interdiction générale du téléphone portable dans les salles de classe. En Bavière, dans le Brandebourg, dans les états-régions de Brême, Hesse, Thuringe et le Schleswig-Holstein, les élèves n'ont pas le droit d'utiliser le téléphone portable en classe, car il n'existe pas de réglementation fédérale. Alors, faut-il interdire ou faire confiance? L'Académie des sciences Leopoldina propose d'interdire les téléphones portables jusqu'à la 10e classe, l'équivalent du niveau BPC. L'Académie qui recommande de tenir les enfants de moins de 13 ans à l'écart d'Internet et des réseaux sociaux. Le délégué du gouvernement fédéral chargé des questions d'addiction de drogue, Hendrik Streeck, réclame certes également des restrictions d'âge pour les réseaux sociaux, mais il s'oppose à l'interdiction des téléphones portables. La Conférence fédérale des élèves rejette également une interdiction générale des smartphones. Elle souhaite plutôt que les compétences médiatiques soient activement encouragées dans les écoles.
DW.
Et les parents dans tout cela, qu'en pensent-ils? Selon un sondage publié en août, 80% de parents sont pour une interdiction. Ils invoquent des difficultés de concentration de leurs enfants au cours. Un autre sondage réalisé par l'Institut de sondage Forsa pour le compte de la Fondation Koeba a révélé que le plus grand facteur de stress pour les parents d'enfants âgés de 12 à 18 ans est l'utilisation par leurs progéniture des téléphones portables. Écoutons Martin Vula, directeur du lycée Dalton à Alsdorf, au micro d'Oliver Pieper.
Les parents des plus jeunes enfants en particulier nous remercient d'avoir interdit les téléphones portables et saluent notre initiative en disant « Dieu merci, c'est la même chose à l'école primaire. Nous ne pouvons pas rattraper tout ce qui ne fonctionne pas à la maison. Nous insistons toujours sur le fait que nous devons non seulement être sur la même longueur d'onde que les parents, mais aussi, dans l'idéal, aller dans la même direction.
À Solingen, toujours dans l'ouest de l'Allemagne, on va encore plus loin avec un projet unique en Allemagne. Depuis la rentrée scolaire, toutes les classes de 5e de la ville ont décidé de renoncer complètement aux réseaux sociaux. Les élèves âgés de 10 et 11 ans veulent également se passer d'Instagram, Snapchat et TikTok à la maison. L'idée vient de Burkhard Brücken. Il est ancien directeur d'école et désormais responsable des affaires scolaires auprès du district régional de Düsseldorf dans l'ouest de l'Allemagne.
On voit beaucoup plus souvent dans les écoles des enfants et des adolescents souffrant de dépression et de troubles anxieux. C'est un phénomène qui n'existait pas il y a 10 ans et qui touche désormais toutes les écoles. La pandémie a été le catalyseur, mais le feu couvait déjà auparavant.
Les élèves sur recommandation ont tous signé une déclaration d'intention écrite dans laquelle ils s'engagent à mener à bien le projet ensemble pendant 1 an. Le projet sera évalué dans les prochains mois, alors que les parents en Allemagne souhaitent davantage d'informations et des règles plus uniformes. Vous écoutez toujours le magazine Vue d'Allemagne, place à présent à la seconde partie. En Pologne, le phénomène des cagnottes pour financer les soins de santé bat son plein depuis quelques années. Durant la campagne électorale, Karol Nawrocki, qui était encore candidat, les avait beaucoup mis en avant pour dénoncer la défaillance d'un système de santé qu'il entendait réformer. Mais ces collectes d'argent manquent parfois de contrôle, notamment concernant l'efficacité du traitement qu'il s'agit de financer. Le reportage d'Adrien Sarla.
À première vue, la famille Kajiroud ressemble à n'importe quelle famille polonaise. Pourtant, depuis le début de l'année, Evelina et Adam mènent une course contre la montre. Leur fils aîné, Franek, âgé de 10 ans, est atteint d'une myopathie de Duchenne qui s'attaque à ses muscles de façon irréversible.
Sans traitement, ses muscles dans le cœur, les poumons vont s'atrophier et disparaître. Et alors, il ne pourra plus marcher, respirer ou manger tout seul.
Cette maladie est à ce jour incurable et aucun traitement efficace n'a encore été homologué par les autorités européennes. Mais en se renseignant sur les réseaux, Evelina et Adam ont entendu parler d'un traitement novateur seulement disponible aux États-Unis et à Dubaï qui permettrait de stopper la progression de la maladie.
Rien que le médicament coûte déjà 3,5 millions de zloty, environ 820 000 euros. À cela, il faut ajouter le coût de l'hôpital, des médecins, les analyses, le séjour sur place. Et au final, ça nous reviendrait au total de près de 17 millions de zloty, 4 millions d'euros.
Une somme que le couple est incapable de réunir à lui-même. Alors Evelina et Adam ont fait appel à une plateforme spécialisée dans la récolte de fonds pour les soins médicaux.
Sur la plateforme, on a pour l'instant 950 000 zloty, environ 223 000 euros. Et pour nous soutenir, il suffit de cliquer sur le bouton « Soutenir ».
Sur le site de chez Pomaga, on aide en français, la collecte intitulée « Sauver Franek » côtoie des centaines d'autres annonces pour financer le traitement de patients désespérés.
On peut dire ce qu'on veut des Polonais, en bien ou en mal, mais la vérité c'est que le peuple polonais sait s'unir quand il faut. Certains aident plus, d'autres moins, mais grâce à l'entraide, plusieurs collectes ont récolté la somme requise.
Lorsqu'on a lancé la cagnotte, mon frère m'a dit, pour une cagnotte de 17 000 zloty, il suffit que 17 millions de personnes donnent un zloty chacun. Dans l'échelle de la Pologne, il suffirait que la moitié des citoyens polonais paient un zloty 25 centimes pour Franek et on aurait rassemblé la somme.
En plus de leur permettre de récolter de l'argent, la plateforme s'occupe d'actualiser l'état de santé de Franek sur les réseaux sociaux, de filmer tout un storytelling pour susciter l'empathie des donateurs et de promouvoir sa cause. En contrepartie, elle encaissera 6% de la somme totale récoltée sur la cagnotte, un pourcentage que le docteur Małgorzata Osmola juge énorme.
Quand on sait que de nombreuses cagnottes montent à 1 ou 2 millions, 6% ça fait une grosse somme.
Elle est oncologue et elle a vu nombre de ses patients recourir à ce genre de cagnotte pour pouvoir contourner le secteur public, où les délais pour obtenir un rendez-vous sont parmi les plus longs d'Europe. En plus d'un manque de médecins chroniques, le pays fait face à un système de sécurité sociale déficient. Seul 6,4% du PIB est consacré à son système de santé, là où les pays d'Europe y consacrent en moyenne plus de 10%. Alors l'an dernier, plus de la moitié des Polonais ont eu recours au moins une fois au secteur privé.
Les thérapies d'oncologie sont très chères et elles coûtent probablement le même prix en France qu'en Pologne. Sauf qu'avec votre système de sécurité sociale, c'est plus facile à supporter. Alors que dans le système polonais, certaines thérapies géniques coûtent jusqu'à 2 millions d'euros. Et ils sont plusieurs milliers à vouloir en bénéficier. Et quand on voit la quantité de collectes sur Internet, il est clair qu'il y a quelque chose dans le système de santé polonais qui ne fonctionne pas.
Mais la spécialiste met aussi en garde contre les patients qui créent des cagnottes avec l'énergie du désespoir en cas de maladie incurable, quitte à manquer de transparence et dévoyer le système.
Toutes les collectes ne se valent pas. Une partie d'entre elles sont destinées à des traitements novateurs et je les soutiens. Mais une grande partie sont destinées à des méthodes de médecine alternatives, proposées par des charlatans et souvent inefficaces.
L'oncologue porte un regard critique sur le manque de rigueur des plateformes, qui ne contrôlent pas la pertinence des cagnottes. De quoi ouvrir la voie à des dérives, selon elle, au détriment des donateurs, mais aussi des malades.
Sous le lien de certaines cagnottes sur Facebook, j'ai écrit plusieurs fois dans les commentaires que des études avaient prouvé l'inefficacité du traitement pour lequel la personne demandait de l'argent. Et les plateformes ont supprimé mes commentaires de professionnels pour la simple et bonne raison que ça aurait pu engendrer une perte de marge pour elles.
À ce jour, aucun dispositif ne conditionne les cagnottes à un avis médical pour éviter les arnaques ou les financements de traitements voués à l'échec. Adrien Sarla, Varsovie, pour la Deutsche Welle.
C'est la fin de cette édition de Vue d'Allemagne à écouter et réécouter sur les sites internet via les réseaux sociaux et sur la plateforme de podcast de votre choix. À la semaine prochaine, alles Gute, tschüss!